Mémodio, une mémoire sonore.
Coup d'éclat de Christa Sautou, on vous propose...
Alors voilà, oui, on va vous proposer une trentaine de minutes de lecture. Hein. Voilà, pour vous. Et ensuite, nous accueillerons l'autrice qui viendra vous raconter, je ne sais pas, faire une masterclass, son processus d'écriture. Vous pourrez lui poser des questions. Voilà. Et nous finirons peut-être par une petite pépite pour clore de la rencontre après tout ça. Avant de boire des coups, bien entendu, d'acheter le livre, enfin de souscrire à son achat. Voilà, c'est parti. Eric.
J-1, mardi 16 août 2022. Chapitre 1, Mycélium. Dans la pénombre du petit matin, au détour du dernier virage, lorsque la voiture franchit le passage à niveau, Louis Arestier aperçut la forme noire et sinueuse qu'il affectionnait tant. Le ruban sur la rive du lac de Saint-Étienne-Cantalès l'invitait à entrer dans un monde étrange et secret, mi-végétal, mi-aquatique. Ce lieu sauvage avait bien changé depuis le jour où il l'avait vu pour la première fois. La mise à l'eau en béton, dédiée aux barcasses de pêcheurs, avait laissé place à des pontons pour jet-ski et hors-bord en tout genre. La presqu'île attenante à la nouvelle marina s'était vue, quant à elle, dotée d'un caillebotis géant, serpentant les contours du plan d'eau avec une précision d'horloger. Cet espace vierge, quasiment inconnu de la population locale, s'était transformé en quelques années en une promenade des Anglais version Cantalou. Seule l'école de voile faisait de la résistance en refusant de rénover l'armada d'optimistes et de 80 qu'elle avait acquise dans les années 80. Depuis la rive, on voyait les bateaux miteux renversés sur le flanc. On aurait dit une famille d'animaux marins, épuisés par une longue traversée, venus s'échouer sur la plage. Avec une certaine ironie, les pêcheurs autochtones l'avaient nommée la plage du cimetière cétacé. 5h45. L'aube encore loin, tout semblait se présenter pour le mieux. Il était le seul bateau, pas de concurrence, pas de garde. Après avoir reculé sa remorque jusqu'à la mise à l'eau, il jeta un coup d'œil satisfait autour de lui, se tourna vers son compagnon et proféra son mantra favori, sourire aux lèvres.
« L'heure tentateur perce les profondeurs. C'est leur petit poisson de mordre à l'hameçon. »
Louis Arestier prenait un plaisir infini à ses parties de pêche en solitaire. Il s'y sentait vivant. Il démarra le moteur et prit la direction de l'anse aux cendres pour y jeter l'ancre. En principe, ce spot tenait ses promesses. Il était juste essentiel d'être patient. Ça faisait déjà plus de 2 heures qu'avec son épagneul breton, il attendait placidement que le bouchon plonge dans les ténèbres du lac artificiel. Apparemment, aujourd'hui, perches, brochets et autres carnassiers n'avaient pas d'appétit. À 7h45, l'eau perdit tout attrait à ses yeux. La forêt l'appelait, prête à lui offrir son lot de consolation. En cette fin d'été, il n'était pas rare d'y trouver quelques champignons. L'homme connaissait les coins. C'est dans l'idée de ramener tout de même quelque chose à se mettre sous la dent qu'il leva l'ancre et dirigea sa barque vers une autre anse peu fréquentée par les natifs des lieux. Au fond de la crique, perdue au milieu des ombres, les branches de bois flottées érigées en barricade confirmaient que Mère Nature déployait beaucoup d'énergie pour tenir les hommes à distance. Mais Louis Arestier, peu enclin à se laisser impressionner par des obstacles ou des histoires destinées à faire peur aux enfants, estimait que ce site méritait le détour. Outre une cueillette généreuse, l'alcôve reculée offrait à celui qui osait s'y aventurer une vue imprenable sur le pont ferroviaire Toulouse-Aurillac, perdu au milieu de l'immensité des eaux. La barque à peine accostée, son chien sauta sans encombre sur la terre ferme et, contrairement à ses habitudes, partit à toute allure vers les profondeurs de la forêt. Après avoir pris soin de relever son moteur et de mettre sa musette en bandoulière, Louis Arestier mit enfin pied à terre. Il marqua une pause, prit le temps de respirer ce que la nature avait à lui raconter. Les odeurs d'humus, de terre, de feuilles humides et de mycélium lui permettait d'apprécier les premiers indices d'une possible cueillette.
Volcan ! Volcan !
Murmura-t-il. Bien qu'il soit peu probable de croiser quelqu'un, il n'avait pas l'intention de se faire repérer. Ce coin à champignons était l'un des meilleurs qu'il connaisse. Il héla plusieurs fois l'animal, mais sans succès, comme si la chenée avait avalé son chien. Pourtant, habituellement, Volcan lui obéissait au doigt et à l'œil. Pourquoi ne revenait-il pas? Son compagnon était tout pour lui, il n'était pas question de le perdre. Cette idée le terrorisait. Il devait retrouver son chien coûte que coûte. Tout en suivant la piste des fougères couchées par l'animal, il jugea la situation suffisamment inhabituelle pour rompre avec toutes les règles de discrétion auxquelles il s'était toujours astreint. Il avait sifflé, et puis crié « Volcan !» Quand quelques mètres plus loin, il aperçut enfin la toison marron et blanche de son épagneul. La scène lui semblait étrange. Il était encore trop loin pour décrypter l'image. En se rapprochant aussi vite que le couvert végétal le lui permettait, il lança « Volcan, bon Dieu, qu'est-ce que tu fiches à la fin ?» Le chien léchait de façon frénétique ce que Louis Arestier prit d'abord pour une charogne d'animal. À chacun de ses pas, le tableau se précisait. Il distinguait un peu l'âge. Un sanglier, peut-être ? Un cervidé ? Mais ni la taille ni la forme ne correspondaient. Son chien ne répondait toujours pas à ses ordres. L'instinct sauvage de l'animal avait manifestement pris le dessus malgré des millénaires de domestication. L'épagneul restait happé, la truffe enfouie dans le pelage. Quand Louis Arestier arriva au niveau de la charogne, il dut s'y prendre à deux fois pour écarter le chien de sa proie. Et là, le choc, la stupeur. Il comprenait sans y croire. La scène semblait tout droit sortie de la préhistoire. Ce qu'il avait d'abord pris pour un animal était en réalité un homme vêtu d'une peau de bête. Seule la coupe de cheveux presque militaire s'accordait mal à l'image d'un homme de Néandertal. Plus de doute possible, c'était un cadavre. Les insectes l'avaient déjà compris. Les yeux ouverts et vitreux attiraient une myriade de petites mouches qui y avaient trouvé un réceptacle propice à leur reproduction. Quant aux fourmis se hâtant sur les joues du dormeur éternel, leur procession donnait l'étrange impression que le cadavre pleurait toutes les journées d'été qu'il ne connaîtrait plus. Louis Arestier attrapa son téléphone et composa le 17. Alors qu'il se penchait pour mieux observer un objet situé à côté du cadavre, son regard fut attiré par des dizaines de petites taches jaune-orangées, émergeant de la mousse. Quelques girolles fleurissaient à côté du corps en guise de couronne mortuaire. Sa journée n'était pas complètement foutue.
Chapitre 2, Cour Montion.
On a pris la bonne décision, les points de contrôle restent, point barre. Il s'agit de la sécurité du public, nous ne pouvons prendre aucun risque. Je conçois que cela chagrine le directeur du festival du théâtre de rue, mais que voulez-vous ? La première des libertés, c'est la sécurité. Aujourd'hui, nombre de nos concitoyens lui trouvent un goût de rance. Le ministre est sur les dents, mais notre boulot, c'est d'éviter les emmerdes.
Tout en prononçant ces mots, le préfet tendit sa main au commissaire Nora Rank, façon convenue de lui annoncer que leur petite entrevue était terminée. Avant même ce tête-à-tête, Rank savait qu'elle allait perdre son temps, que tout ça ne servirait à rien. Ces rendez-vous entraient dans la catégorie des réunions inutiles, enfin inutiles pour elle. Pour son interlocuteur, il était un prétexte à justifier son salaire exorbitant. Comme Rank s'y attendait, le préfet lui avait servi des lieux communs sur la sécurité, élément de langage certainement soigneusement asséné par son directeur de cabinet. Rank prenait conscience qu'elle devrait supporter les faux-semblants des hauts fonctionnaires et des politiques qu'elle allait côtoyer. Elle avait déjà franchi le seuil du cabinet quand, dans la posture théâtrale d'un mauvais comédien, le préfet asséna...
On est d'accord ? Pas d'attentat, pas de mort, pas de grabuge.
Ce n'est pas un jour du lancement du festival qu'il fallait se réveiller. C'est vrai que quelques mois auparavant, elle n'était qu'inspectrice et qu'aujourd'hui, elle était commissaire. D'accord, elle était arrivée depuis peu, mais elle n'était pas complètement stupide. Rank tenta de réfréner ses sentiments de colère, mais rien n'y fit. Son affectation dans cette ville paumée était sa punition. Pressé de se débarrasser d'elle, quelques coups de téléphone avaient suffi à son supérieur hiérarchique de Bordeaux pour qu'elle échoue dans la cité cantalienne. Les propos acerbes de son chef bordelais étaient gravés profondément dans sa mémoire.
Rank, je vous tolère dans mon service car je ne peux pas faire autrement. On est astreint à composer avec les médiocres comme vous. Ils restent collés des années dans nos services comme le pansement du capitaine Haddock. On rêve qu'ils vont se résoudre à lever le camp, mais non. Ils sont toujours là à vous rendre la tâche ingrate.
Il s'était saisi d'un bloc de post-it posé sur son bureau. L'air faussement détaché, il avait joué avec et, la regardant droit dans les yeux, il lui avait lancé...
Je vous rassure, je ne vous laisserai pas devenir mon sparadrap.
Il utilisait toujours la même méthode pour rabaisser ses collaborateurs. Il les plaçait devant un choix impossible. Les forçant à décider s'ils avaient affaire à un expert en humour noir ou à un chef sadique. Rank avait depuis longtemps tranché la question. Elle attendait la suite.
Je sais que vous avez pour habitude de travailler en sous-marin et on m'a confirmé que vous trafiquiez encore des choses pas nettes. Vous vous imaginez que les choses ne finissent pas par se savoir, peut-être ? Vous connaissez les règles, non ?
Les post-it remisés dans un tiroir, il tripotait désormais un bic quatre couleurs.
Nous en avons déjà parlé. Vous n'avez pas à contester mes ordres.
Bon, soudain, son ton s'était fait plus doux, presque mielleux, ce qui ne présageait rien de bon. Et il avait continué, ne lui laissant aucun espace pour esquisser un début de réponse.
Vous êtes en formation de commissaire. On se demande comment cela peut être possible, d'ailleurs. Encore un coup de la promotion interne. À votre entrée dans la police, vous vous étiez porté volontaire pour assurer des demandes de renfort dans le quart sud-ouest, non ? Eh bien, on va considérer que le Cantal est dans ce périmètre géographique.
Il avait fait une légère pause avec un sourire à peine contenu.
Aucun effectif en Auvergne n'étant disponible, j'ai validé votre affectation. Je vous rends service en vous éloignant de Bordeaux, alors remerciez-moi. Vous êtes envoyé à Aurillac pour le remplacement impromptu du commissaire Roux, actuellement dans le coma. Il a voulu jouer au bricoleur du dimanche. Il est tombé d'un échafaudage sur le chantier de sa maison. Vous voyez, rien de bien glorieux. Une mission à votre mesure.
Son sourire s'était élargi davantage.
Bien que ce genre de voyage se veuille temporaire, un conseil, sous-louez votre appartement de Bordeaux. Attendez-vous à passer l'hiver à Aurillac.
Elle était sortie du bureau sonnée. On l'expédiait dans un des départements les plus ruraux de France. Elle en aurait presque démissionné. Cependant, elle refusait que son travail acharné pour passer ce foutu concours de commissaire soit anéanti par l'intervention de son crétin de chef. Bon, pourtant, l'exercice était selon elle une aberration dont l'administration française a le secret. Sélectionner des candidats sur leur capacité à écrire des notes de synthèse à la main à l'heure de l'intelligence artificielle et des logiciels de traitement de texte. Mais tant qu'on y est, pourquoi pas évaluer les futurs commissaires sur leur dextérité à graver des tablettes en terre cuite. La commissaire tourna à droite, en direction du conseil départemental, pour rejoindre son bureau. En traversant la vaste place, qui servait encore de marché aux bestiaux dans les années 70, Rank dut zigzaguer entre des camions plus ou moins bien entretenus, les bruits sourds de barres métalliques, de radio FM, de tables qu'on déplie, attestaient de l'arrivée des camelots. Le temple de l'artisanat bon marché, venu des quatre coins du monde, allait prendre ses quartiers à Aurillac. Sans trop d'efforts, on y trouverait en vrac matériel de cirque, pierres aux vertus magiques, sarouel, didgeridoo, grinders, barres dansants, sandales en cuir, bref, le kit complet pour Néo Babacool. De leur côté, les restaurateurs ambulants s'affairaient à mettre leur business en ordre le plus vite possible. Ce qu'ignorait encore Rank, c'est que le lendemain, ce lieu allait être le théâtre d'un genre très populaire. Une sorte de pièce de boulevard culinaire. Sur la totalité de la rue, et Dieu sait si elle est longue, une multitude de stands aux odeurs de graillons attireraient des hordes de ventres creux. Le festivalier, en hypoglycémie et carte bleue à la main, devra y choisir son menu. Et s'il a le malheur d'être avec ses amis, il devra relever un défi quasiment impossible, répondre à la question existentielle « Aligo saucisse ou empanadas guacamole ?» Heureusement, sur le trottoir d'en face, les wawash vautrés sur le bitume et amassés en grappe feront accélérer sa décision à grand renfort d'odeur de chien mouillé, de 8-6 éventés et d'urine sur les pantalons. Rank n'avait toujours pas fini de remonter la rue. Elle était désormais au niveau de l'ancien kiosque à musique. Les bruits des cliquets et des tirs forts résonnaient. Une arche métallique s'arrachait péniblement à l'attraction terrestre. Un trapèze, son trapéziste, s'y balançait mollement. Quand la manœuvre prit fin, Rank était arrivée sur l'esplanade du conseil départemental. Moins distraite, elle se concentra sur sa journée de travail. Dans quelques minutes, elle allait recevoir en tête-à-tête son commandant, chose qu'elle n'avait pas encore eu le temps de faire, débarquée là il y a 2 semaines, et depuis, pas un jour sans un caillou dans la chaussure. Outre les dossiers en cours, qui lui avaient confirmé ce que tout flic sait déjà, la désastreuse incapacité des êtres humains à vivre ensemble et à s'aimer, Rank avait dû scoltiner une quantité pléthorique de réunions de sécurité liées au festival. Elle se réjouissait d'avoir enfin un moment pour pouvoir appliquer les consignes qu'elle avait lues dans les manuels de management, appréhender l'état d'esprit des hommes de son équipe. La sonnerie de son téléphone a sorti de ses pensées. Allô, j'écoute ?
Excusez-moi, c'est Bénédicte. On n'a pas voulu vous déranger pendant votre réunion avec le préfet, mais là, on a un problème. J'ai Nico, je voulais dire le commandant Magne, qui est en audition. Mmh. Il me demande de vous demander si vous pouvez arriver rapidement. Nos collègues de la gendarmerie d'Itrac ont besoin de vous au lac de Saint-Étienne-Cantalès. Hein?
Pardon, un lac? Non, je ne comprends pas. Quel est le rapport avec notre commissariat? Un lac, c'est à la campagne, non?
Oui. C'est à 20 km d'ici.
Bénédicte, qui savait que sa patronne arrivait de Bordeaux, crut bon de préciser...
C'est l'un des plus grands barrages hydroélectriques du département. Un pêcheur a trouvé un mort. D'après l'adjudant-chef sur place, le procureur pourrait nous confier l'enquête. Je n'en sais pas plus. Il doit faire quoi? Il vous attend?
Oui, bien sûr. Les préparatifs de l'événement le plus important de l'année dans la vie des Aurillacois n'existait déjà plus pour Rank. Elle allait pouvoir faire ce pourquoi elle avait choisi d'être flic, enquête, terrain, action. Et pas le blabla de son début de matinée. Rank ne prêta pas attention au jeune couple au look de randonneur qui se dirigeait vers la billetterie du festival.
Il faut être à l'ouverture. J'espère qu'il reste des places. Il paraît que ça va être THE spectacle de cette édition. Une vraie tuerie.
Chapitre 3, peau de bête. Envolé trottoir et macadam, place aux vaches salerses, museau dans l'herbe grasse. La voiture de police se traînait péniblement vers le lieu-dit du Ribérès. Rank profita du trajet pour jouer la carte de l'empirisme. Entretien informel, prise de température et analyse des états d'esprit. Dites-moi, Magne, comment mon arrivée est-elle perçue au sein de la brigade ?
C'est pas à moi qu'il faut demander ça, voyez directement avec mes collègues. C'est votre boulot, non? J'ai pas le temps de me préoccuper de ce genre de choses. Et quand je conduis, j'aime pas parler. Ça me déconcentre.
Le commandant était un homme massif avec une oreille cendrier de rugbyman, dont il avait occupé, à n'en pas douter, un poste de pilier gauche dans sa jeunesse. Rank ne savait pas encore que Magne était un anxieux, à tendance néophobe, surtout au volant. Il n'aimait pas conduire les voitures de service. Il craignait constamment l'accident qui pourrait lui retomber dessus. De plus, il vivait très mal, comme beaucoup de natifs du Cantal, la politique de désenclavement qu'avait engagée le conseil départemental. Il criait à qui voulait l'entendre que les politiques avaient perdu la raison. Et il ne comprenait pas pourquoi ils avaient investi cette passion pour les routes. Son département était sauvage et éloigné des métropoles, et c'était très bien comme ça. Mal à l'aise dans l'usage du GPS, avec le sens d'orientation d'une poule élevée en batterie, il martelait également que plus personne ne comprenait le réseau routier de la ville. Les rues changeaient de sens en permanence, il avait un mal de chien à s'y retrouver, c'était le bordel. Bon, pour preuve, il fallait voir à la sortie des bureaux. Les axes étaient constamment encombrés, chose qui n'existait pas quand il avait passé son permis de conduire.
C'est quand même pas croyable, on se croirait aux autotamponneuses de la Saint-Urbain. Au moins, les Parisiens, ils sont pas dépaysés quand ils viennent chez nous.
Et vous, Magne, comment vivez-vous mon arrivée?
Oh, ben je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Ça fait plus de 10 ans que je suis sous les ordres du commissaire Roux. Et disons que nous avions trouvé notre vitesse de croisière. Il m'a toujours laissé faire librement ce que j'ai à faire.
Il n'y a pas de raison que ça change.
Ouais. On verra.
J'imagine que vous ne vous attendiez pas à avoir un remplaçant si vite.
En période de théâtre de rue, je ne suis pas surpris.
La brigade de gendarmerie d'Itrac était arrivée sur les lieux une demi-heure après le coup de téléphone du pêcheur, soit vers 10h15. Valeurs et disciplines chevillées au corps, l'adjudant-chef Anthony Puech était un homme de terrain à la stature imposante. Plus d'une heure sans voir venir les flics, le conflit de compétences gendarmerie-police en embuscade, à l'arrivée du médecin de campagne, l'adjudant-chef demanda à son second, le gendarme Rinaldi, de déshabiller la victime à la recherche d'une hypothétique pièce d'identité.
Et aidez-moi à le maintenir, hein, maintenir assis pour que je puisse lui enlever son manteau en peau de bête,
dit le médecin s'adressant à Rinaldi.
Non, prenez-le sous les bras, je vais enlever la manche gauche. On dirait Otzi, l'homme des Alpes, vous ne trouvez pas?
Le gars congelé de la préhistoire. Je pense plutôt à un dingue du théâtre de rue qui a voulu jouer à la guerre du feu. Trop de drogue et hop.
Répondit Rinaldi. Après plusieurs minutes d'efforts, les deux hommes se rendirent à l'évidence. Leur manœuvre dédiée à débarrasser la victime de son vêtement de poil ne fonctionnait pas. Bien qu'assis, l'habit du cadavre restait comme collé à son dos.
On va l'allonger sur le ventre,
reprit le généraliste.
À trois, on le glisse sur la couverture.
Au même moment, sur le parking.
On y est.
Grommela Magne, tout en garant la voiture derrière le fourgon de la gendarmerie. Sur le bas-côté, porte latérale ouverte, un jeune officier prenait la déposition du pêcheur. Sa luse et quelques indications plus tard, Rank et Magne pénétrèrent sous le couvert forestier. 5 minutes de marche étaient nécessaires pour rejoindre l'équipe des gendarmes. Seules les feuilles sèches piétinaient et les lézards en fuite rythmèrent leur progression vers la berge. Quand ils arrivèrent enfin, Rank découvrit le gendarme Rinaldi à cheval au-dessus de la victime en train de tirer sur le vêtement d'un geste sec. La toison se détacha d'un coup, surprenant le gendarme. Entraîné par la force de son geste, quelques gouttes d'une matière organique se projetèrent sur ses battes. Yeux vissés en direction du dos du mort, son visage devint livide.
Putain, c'est quoi ce bordel ?
Cria le gendarme, cramponné comme un torero à sa cape de brégat en poil d'animal. Oui, je vous le demande, c'est quoi ce bordel ? S'exclama Rank. En son absence, tout semblait avoir été orchestré dans la plus grande improvisation. Une couverture de survie en guise de champ opératoire, point. À 50 mètres de là, indifférent à la scène, l'adjudant-chef Anthony Puech était en grande conversation téléphonique.
Vu le bordel qui règne ici, reste à espérer que le proc nous a fait venir pour rien.
Bougonna Magne entre ses dents. Le médecin de campagne s'était relevé, le regard hébété. Peu enclin à voir ce genre de choses, il puisa dans les ressources que lui conférait sa formation scientifique pour trouver la force de parler aux deux flics.
Notre homme n'a plus de dos. Il faut se rendre à l'évidence, je ne suis plus dans mon domaine de compétences. Un médecin légiste s'impose.
Enfin, on ne peut pas travailler dans... La commissaire Rank s'interrompit. Le brigadier chef, encore dans l'ignorance des dernières constatations, lui faisait de grands signes pour qu'elle le rejoigne.
J'imagine que vous êtes la commissaire Nora Rank. Mm-hmm. Enchanté, adjudant-chef Anthony Puech, gendarmerie d'Itrac, le procureur de Chazelle souhaite vous parler. Oui, bon, vous l'avez...
Rank, les yeux rivés sur les barres réseau du portable, zigzaguait entre les arbres. Non, vous pouvez répéter, je ne vous entends pas.
Bon, commissaire, avez-vous pu prendre connaissance de l'affaire?
Non, à dire vrai, pas encore. Nous venons d'arriver. L'adjudant-chef a donné l'ordre de déshabiller la victime sans nous attendre, c'est vous dire. Non, il faut croire qu'il s'est assis sur le protocole. Mais oui, grâce à son incompétence, on vient de découvrir que la victime a été mutilée.
Mutilée ?
Des muscles ont été prélevés.
Quoi ?
Il n'a plus de dos. Enfin, impossible pour le moment de dire si les blessures ont été faites par un animal ou par un détraqué.
Bon, il y a une demi-heure, l'adjudant en chef m'a appelé pour me faire un premier rapport sur les circonstances de la découverte. Vous devez savoir que la victime tenait dans ses mains un laissez-passer du festival de théâtre de rue.
Enfin, nous venons d'arriver, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas tous les éléments.
Avez-vous trouvé les papiers d'identité de la victime ?
Non, encore une fois, nous venons d'arriver.
Bon, pour votre information, ces passes sont remis par le festival aux compagnies et aux professionnels pour la durée de l'événement.
Vous suggérez que notre inconnu serait du milieu des artistes ?
Bon, je viens d'échanger avec le préfet, nous partageons la même crainte d'une affaire potentiellement explosive. Les nouveaux éléments que vous venez de me donner renforcent mes convictions. Et je ne pense pas que la gendarmerie soit la plus apte à gérer un tel dossier. Dites à l'adjudant-chef Puech que je le dessaisis. Je vous confie l'enquête.
Avec mes effectifs actuels et le festival qui démarre ? Bon, merci du cadeau.
Bon, écoutez, vous venez d'arriver, alors ne commencez pas à faire votre mari la pleureuse avec vos problèmes RH. Pour le moment, mon objectif est que vous compreniez parfaitement bien les enjeux. Nous avons un festival qui débute demain, avec des centaines de spectacles, plus de 200 000 spectateurs et 4 jours qui pèsent lourd dans la vie économique de la ville. Et comme vous l'avez compris, tous les services de sécurité sont sur les dents.
Bon, monsieur le préfet m'a encore convoqué ce matin pour me servir des lieux communs. Il doit penser que je fais la sieste pendant nos réunions de coordination sécurité-festival. Mais enfin, à croire que les multiples éditions n'ont pas suffi à mettre en place une stratégie huilée. Je ne suis pas plus niaise que les autres pour intégrer des décisions et les enjeux.
Bon, comprenez-moi bien. Vous débarquez dans un univers que vous ne connaissez pas. Si vous pensez tout savoir parce que vous venez d'une grande ville, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Vous allez vite déchanter. La jungle prend ses quartiers d'été à Aurillac.
Enfin, le tableau n'est-il pas un peu trop sombre, monsieur le procureur ?
Bon, il est impératif de bien comprendre. Le festival regorge d'un ramassis de gauchos et d'anarchistes paumés qui n'ont aucun respect pour nos institutions. Dès qu'ils peuvent foutre le bordel, ils ne se gênent pas. Il y a quelques années, on a dû faire intervenir les CRS aux abords du square pour faire évacuer cette racaille. La situation a dégénéré après qu'un de vos collègues a opéré un simple contrôle d'identité. Les mères de famille qui passaient par là s'en souviennent encore. Ce jour-là, les enfants, dont les poussettes, ont découvert à leurs dépens l'odeur subtile des gaz lacrymogènes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le jardin est bouclé par une superbe barricade, style village d'Astérix. À la différence des irréductibles gaulois, nos gugus sont disséminés un peu partout dans les rues de la ville. Maintenant, vous comprenez nos problèmes.
Enfin, les réunions journalières à la préfecture servent à ça, non ?
Certes, oui. Mais les problèmes demeurent.
Bon, écoutez, je n'ai pas encore assez de recul pour me faire une idée précise de la situation générale.
Je vais vous en donner du recul, moi. Un cadavre potentiellement lié au milieu du théâtre de rue, ça nous complique passablement la tâche. Et je ne vous parle pas des metteurs en scène qui se prennent pour les Roméo Bellucci du Macadam. Cela, vous ne les verrez nullement sur votre écran de télé. Ils ont pourtant un point commun avec les artistes du showbiz. L'amour pour les produits illicites et particulièrement la cocaïne. Si un de ces comédiens déjantés ou un de ces metteurs en scène a tendance paranoïaque et apprend qu'un cadavre a été retrouvé avec ce foutu badge du festival, on est certain qu'ils vont en profiter pour en faire une question politique. Vous les verrez hurler à qui veut bien leur tendre un micro qu'on s'ingénie à faire taire leur droit à la liberté d'expression. Ces gens-là passent leur temps à critiquer le système. La ville grouille d'agitateurs qui ne nous veulent pas du bien. C'est le moins qu'on puisse dire.
Je vois.
Bon, il va falloir, madame commissaire, que vous composiez pendant 4 jours avec tous ces paramètres. Ensuite, on avisera. Vous allez marcher sur des œufs, sachez-le.
Oui, bah, je vois surtout que vous me demandez de laisser mon brassard au placard et de jouer à l'homme invisible, hein, c'est ça ?
Voilà. J'observe que vous commencez à me comprendre. Il va sans dire que vous devez tout faire pour que notre affaire reste dans notre giron. Les mots « mort », « cadavre », « meurtre », bref, tout le jargon du policier enquêteur ne doivent pas être prononcés. Compris ? À vous de jouer et de trouver la méthode et les arguments pour commencer à démêler cette affaire. Si le journal La Montagne avance ce dossier, c'est le chaos assuré. Soyons clairs, commissaire. S'il y a des fuites dans la presse, je vous en tiendrai personnellement responsable.
Les gendarmes étaient sur le départ. Tout sourire. L'adjudant-chef Puech se dirigeait à grandes enjambées vers Ranque. La main tendue, il lui annonça...
Eh bien, nous allons vous laisser. Ce fut un plaisir.
C'était le moment pour Rank de remettre les pendules à l'heure. Ce que l'adjudant-chef ignorait, c'est ce qui avait construit Rank. Ce qui la rendait intrépide et revêche. Elle était coutumière de la passe d'armes. Rank, avec son physique à la Eva Guyot, pratiquait un kickboxing bien à elle. Alors le mâle alpha, avec ses galons sur les épaules, Rank n'en ferait qu'une bouchée. Elle refusa la poignée de main et se dressa devant lui. « Vous étiez tenu de nous attendre. Il y a des protocoles à respecter. »«
J'ai fait ce que j'avais à faire. »
Votre gestion de la scène de crime est calamiteuse.
Et qu'est-ce qu'elle a, ma gestion? Vous avez la critique sacrément facile. Rien de surprenant pour un flic.
Bouger un cadavre relève de la faute professionnelle. Vous êtes tout simplement un incompétent. Vous avez déshabillé la victime, vous n'aviez pas à le faire. Vous avez probablement détruit des indices précieux. Une enquête sur ces bases-là? Mais c'est de la science-fiction.
Bon, écoutez, quand on met presque 2 heures pour arriver, il faut bien qu'en attendant les choses avancent, hein?
Mais ce type est incroyable, aucune remise en question.
Bon, j'ai considéré que c'était un uluberlu du théâtre de rue.
Un uluberlu? Et alors? Qu'est-ce que ça change? C'est une victime avant tout.
Attendez, attendez, c'est à vous que le procureur confie l'enquête. Si je n'avais pas donné l'ordre de déshabiller la victime, vous n'auriez pas su avant demain que le dos était mutilé. Vous gagnez du temps. Alors dites-moi merci.
Vous savez ce que le code de procédure réserve à une faute pareille? Puisque vous aimez aller vite, je trouverai la copie de votre rapport dans mes mails à mon retour au poste. Et si l'affaire piétine, adjudant, je ne manquerai pas de transmettre votre téléphone à la famille de la victime. Elle appréciera. Putain ! Lassé de l'altercation entre sa chef et le gendarme, Magne rejoignait la voiture avec l'ensemble des scellés. Et parmi eux, le plus petit des sachets contenait un pass de la taille d'une carte de fidélité, comme tout bon commerce s'étant distribué à son aimable clientèle. On parvenait à lire à travers le sac plastique « Compagnie de passage » et juste en dessous, en lettres capitales, « Compagnie Albémut, édition 2010 ». C'était il y a 12 ans. Pourtant, le badge semblait comme neuf.
Donc voici notre découpage des 3 premiers chapitres. Et si Christa le souhaite, ainsi que Paul l'illustrateur, vous êtes les bienvenus sur le plateau.
Mémodio, une mémoire sonore.
Bravo!
Bravo! Bravo! Bravo! Merci.
Alors Christa, il y a plus de 30 ans qu'on se connaît.
Oui.
J'étais connue circassienne, j'étais connue comédienne.
Oui.
Après, tu as vogué vers... L'Atlantique.
Oui, c'est ça.
Et cette envie d'écrire est surtout un polar, Aurillac. Est-ce que tu peux nous en glisser quelques mots?
Alors oui, en fait, moi je suis née à Aurillac, donc je suis originaire de là-bas. J'ai connu les premiers festivals, la première édition même. Et c'est un endroit auquel je suis hyper attachée parce que je suis née là-bas, mais parce qu'aussi... J'ai fait ce boulot-là pendant des années. J'ai joué à Aurillac. Et j'avais dans la tête, depuis une bonne dizaine d'années, d'écrire un polar. Et pourquoi un polar? Ça a une importance pour moi. C'est parce que ça rentre dans la littérature populaire. Et pour moi, le festival d'Aurillac, c'est aussi une approche du théâtre, mais du théâtre populaire, mais au sens... pas populiste, mais populaire, c'est-à-dire qui s'adresse à tous. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir du temps pour écrire, parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire le polar, J'étais loin d'imaginer en fait ce que ça voulait dire d'écrire. Je pensais que ça serait plié en 2 mois, j'ai mis 2 ans pour le faire. J'ai eu beaucoup de gens aussi qui m'ont accompagnée, ça a vraiment été super. C'est-à-dire que j'avais pas la méthodologie, je sais pas si ça vous intéresse. J'avais pas la méthodologie, c'était mon premier roman, je savais pas trop comment m'y prendre. En plus, un polar, c'est quand même quelque chose de très technique. Le lecteur attend, évidemment, y a une enquête en tout. Enfin, moi, j'ai voulu vraiment un polar avec une enquêtrice. Il y a des polars où il n'y a pas nécessairement un flic. Ça peut être, quelqu'un de lambda qui fait l'enquête. Mais moi, je voulais vraiment ça. J'ai mis en place une espèce de méthodologie empirique. Et puis, j'ai travaillé, je commençais à faire mes premiers chapitres. Après, je les lisais à mon fils, qui me faisait des remarques et me disait « Ouais, bon, ça, c'est pas terrible, vas-y, refais, réécris. » Et donc, au fur et à mesure, comme ça, j'ai avancé. J'ai d'autres amis qui se sont greffés. J'ai une amie qu'on a en commun qui s'appelle Anne Lehmann, qui lisait mes chapitres. Donc, moi, je les écoutais à l'oreille et ça me permettait de revenir dessus parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans ce que j'entendais. J'ai 2 autres amies, j'ai une qui m'a corrigé toutes les fautes d'orthographe, etc., et qui m'a aidée à ce que la langue soit plus souple, on va dire. Et un dernier ami qui a un sens, de l'oralité très fort et qui faisait les dernières corrections. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avancer dans ce... Puis après, j'ai eu un ami qui est OPJ, donc j'avais tout le côté technique. Chaque fois que j'avais une question technique sur ce que c'est la méthode d'enquête, il a pu m'aider. J'ai rencontré le commissaire d'Aurillac 2 fois, qui a eu la gentillesse de m'accueillir. J'ai rencontré aussi 2 médecins légistes, parce que dans le livre, si vous l'achetez, vous verrez qu'il y a une scène comme ça, à l'IML. Je voulais vraiment que ça soit quelque chose de vrai, pas comme on voit dans les séries télé, où les mecs, ils rentrent, ils posent 3 questions, ils repartent. Ça ne se passe pas du tout comme ça dans la vie. Et moi, je voulais aussi montrer ça au lecteur, voilà. Et puis, ce que j'ai voulu faire, c'est... conjuguer l'idée, c'était de donner envie aux gens qui ne connaissent pas le théâtre de rue de se rendre à Aurillac pour découvrir ce que c'était. C'est aussi une façon pour moi de faire découvrir la ville et aussi de faire découvrir certains paysages ou certaines recettes culinaires. Voilà, ça a été conjuguer tout ça en fait. Voilà, je ne sais pas.
Et donc ce livre, ce premier roman est en souscription. Et quand il sera édité, on aura le replaisir de découvrir la pochette, la couverture. Et peux-tu nous...
Ah ouais,
en
ça
quelques
aussi,
mots, la rencontre avec
bien
Paul.
Bien sûr, il y a des choses quand même qui sont... je ne sais pas comment expliquer, chacun d'entre vous a dû vivre ça dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y en a qui disent que c'est des alignements de planètes, ou je ne sais pas... Des synchronicités, bon, peu importe, on appelle ça comme on veut. En tout cas, moi, j'avais fini ce roman et j'ai déjà, première chose, eu la chance de trouver un éditeur, ce qui est... vraiment pas le cas de tout le monde parce que c'est vraiment un monde très très compliqué à pénétrer. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est que cet éditeur, laisse un peu la main à l'auteur s'il a envie pour travailler la première de couverture. Et donc j'avais fini ce roman, j'avais dans ma tête vraiment envie d'une illustration et pas du tout une photo comme on peut les voir. Enfin, pour ceux qui lisent les romans, enfin, les policiers, vous voyez, ils ont tous le même truc, une typo jaune avec des... Je dis pas que c'est pas bien, mais des photos noir et blanc, etc. Moi, j'avais vraiment pas envie de ça parce que ça traduisait pas pour moi l'énergie qu'il y a à Aurillac, en fait. Parce que c'est un polar, mais c'est aussi quelque chose qui parle du théâtre et de l'énergie qu'il y a dans ce festival. Et bah, pas grâce à mon fils qui faisait une un vernissage d'un travail qu'il a fait, un travail d'ébénisterie qu'il a fait à Toulouse. Il y avait l'exposition aussi de Paul Rey que je ne connaissais pas. Et j'ai vu son travail et vraiment, ça m'a vraiment parlé. Et après, j'étais sur son fil Instagram et qu'est-ce que je vois ? L'image qui va illustrer coup d'éclat et qui correspond, pour ceux qui connaissent Aurillac, à une certaine esthétique des affiches en fait, d'Aurillac. Parce que Aurillac, depuis le début, d'ailleurs, je donne le nom de la personne qui fait ça dans mon roman, un espèce de bonhomme qui est tout le temps étonné et qui décline d'année en année. Et ben, j'ai vu l'illustration de Paul Rey qui n'était pas un bonhomme et qui était une femme. Et moi, ça parle quand même de femmes. C'est un roman aussi qui parle de femmes. Et c'était obligé. Et il a eu la gentillesse d'accepter que son illustration serve dans mon roman.
Il faut dire absolument tout. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés aussi à un vernissage où, moi, je me prénomme Paul et tout le monde m'a toujours surnommé Polo. Mais depuis que je suis vieux, on s'est mis à m'appeler Paula.
Tu ne savais pas.
Et alors, comme tout le monde disait, Paula, comment tu vas, etc. Et donc, Christa, quand elle a entendu ça,
ça a été
un indice supplémentaire. Elle était enfin sûre que c'était la bonne illustration.
Super, c'est trop beau.
Ah ben, ouais. Merci. Eh bien, merci Christa. Et avant de passer au vernissage...
Comment on fait pour souscrire, Christa, concrètement?
Maintenant,
parce qu'on doit transmettre à plein de gens qui ne peuvent pas être là.
Hein. Alors, pour souscrire, il y a, pour ceux qui sont là, qui veulent faire maintenant, il y a un QR code qui va vous renvoyer sur le site des éditions TOT. Surtout, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous cochiez la case le livre remis par l'auteur. Ça vous évite des frais de port qui sont vraiment prohibitifs, à mon sens. Et moi, je me chargerai de les amener dans
la librairie L'Autre Rive.
Voilà, qui est la librairie partenaire. De toute façon, vous allez laisser, si vous souscrivez, vous allez laisser votre mail, etc. Donc moi, je vous contacterai pour vous dire, à tel moment, vous pourrez revenir chercher le livre. Parce que évidemment, pour l'instant, le livre n'a pas sa forme physique. Normalement, la campagne de souscription se termine le 30 avril, en sachant que je devais avoir 180 souscriptions. Donc là, il m'en reste plus que 29 à avoir.
C'est-à-dire que c'était... Non, moi, je suis juste les arcades du truc. L'éditeur t'édite si tu as 180 souscriptions.
Voilà, parce qu'en fait, c'est un éditeur qui est une toute petite maison d'édition. Okay. Et ils n'ont pas de trésorerie, une grosse trésorerie.
D'accord, okay.
Donc, ils demandent à leurs auteurs de faire ça. Alors, c'est sûr que ça demande à l'auteur quand même de se mobiliser pour son travail. Mais à la fois, je me dis, être édité par des grosses maisons, non, c'est mais peut-être c'est... sympa. Mais en fait, il y a tellement un flux que je ne pense pas qu'il soit aussi proche de moi. Et puis surtout, ils sont à l'écoute. C'est-à-dire que moi, je leur ai demandé que le lancement se fasse pendant le festival, ce qui me paraissait évident. Et donc, du coup, ils accompagnent pour que ça se fasse comme ça. Donc là, une fois qu'on arrive au 30 avril, il va y avoir toute la phase de relecture, c'est-à-dire qu'ils vont donner mon manuscrit à quelqu'un qui va le relire, bon, qui va corriger les coquilles, mais qui va aussi certainement à des moments donnés me dire « là, peut-être, il faut que tu resserres, etc. » Je resterai évidemment maître des décisions, mais je pense qu'il y a certainement, vu que c'est un premier roman, on a des travers par moment. Enfin, moi, en le relisant, je vois des petits travers que j'aimerais corriger. Voilà, et donc, normalement, vous, si vous souscrivez, vous devriez peut-être l'avoir avant août, c'est-à-dire juillet, mais je ne suis pas complètement sûre de moi. Voilà.
Ok, super. Merci.
Eh bien, merci, Christa.
Merci.
Et donc, la transition est toute choisie.
Oui, alors la pépite, hein, le petit rappel, parce que vous avez hurlé évidemment pour un rappel. C'est très court et on sort un tout petit peu de l'enquête, parce qu'on ne voulait surtout pas enfin, dans les choix qu'on a eus, on ne voulait absolument pas rentrer dans l'enquête parce que, bon, non, c'est trop savoureux de d'avoir le kiff et le suspense et tout ça.
Et, donc, les rencontres. Donc là, nous allons retrouver le commissaire Nora Rank,
oui,
qui se fait passer pour une programmatrice
elle
au
enquête.
Guichet du festival.
Elle enquête, hein, elle enquête. Elle se présenta comme nouvelle professionnelle. Le jeune garçon qui l'a pris en charge s'appelait Benjamin, comme l'indiquait son badge. Il avait une boucle d'oreille de pirate, du vernis bleu sur les ongles, un tas de bracelets délavés au poignet, vestige des festivals de rock auxquels il avait participé. Il portait également un t-shirt avec le personnage récurrent des affiches d'Henri Galeron, illustrateur du festival depuis 1988. En plus de 30 ans, ce graphiste avait dû faire preuve d'une sacrée imagination pour décliner à toutes les sauces son bonhomme étonné en costume cravate. Beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, car personne ne parvient jamais à percevoir la ligne artistique de l'année. Sauf, peut-être, lors de la 25e édition. Il faut dire que 2010 était l'année de tous les excès et de toutes les outrances. Les artistes performeurs et leur corps y étaient à l'honneur. Et pas n'importe lesquels. L'ultra-provocateur scatologue et sodomite Jean-Louis Coste. Spencer Tunick, le photographe des foules nues, Pascal Tchiap, qui se languissait de recevoir des messages, téléphone portable dans le vagin, et la plus féministe transcendantale de toutes, Annie Lam. L'artiste avait débarqué à Aurillac avec une mise en scène digne des défilés de mode, podium central et spectateurs en face à face. Ici, pas de vêtements de luxe, mais un focus sur un rite underground, la suspension extrême. L'effet miroir produit par la configuration scénique poussait les spectateurs à sonder leur capacité au voyeurisme. Je te regarde regarder un homme se faire transpercer le dos par des crochets de boucher pour y être suspendu. Le tout sans trucage. Cette année-là, Henri Galeron avait déshabillé son bonhomme et pour une fois, tout le monde avait compris pourquoi.
Bonjour. Je m'appelle Benjamin, je suis stagiaire en Master 2 et je suis ici pour que vous passiez un agréable festival. Alors voici le programme officiel. Vous y trouverez toutes les infos pratiques et les spectacles du HIN.
Du HIN ?
Bah oui, pas le off.
Rank regretta immédiatement le choix de sa couverture. Mentir sur une activité sans avoir connaissance du béaba du langage du théâtre de rue allait lui rendre la tâche difficile. Oh ben vous savez, je suis néophyte, alors le HIN, le OFF...
Ah oui, effectivement. Je vous explique tout ça. Les compagnies HIN, vous voyez, sont invitées par le festival. Certaines d'entre elles ont même bénéficié de notre soutien, Production Éclat. Cette année, vous pourrez découvrir 3 spectacles inédits qui ont été accueillis en résidence au Parapluie.
En plongeant son regard dans celui de Rank qui restait dubitatif, il réalisa qu'il était tenu de poursuivre ses explications.
Le Parapluie, c'est notre lieu dédié à la création artistique théâtrale. Tout au long de l'année, les compagnies viennent en résidence pour écrire ou travailler leurs nouveaux spectacles. Là, vous trouverez les heures de navette, les lieux de parking. Vous voyez ici, chaque double page correspond à la présentation d'un spectacle du HIN. Sont précisés les jours, les horaires et les lieux. Alors là, le numéro de la pastille vous renvoie au lieu de la représentation. Il faut vous reporter au plan de la ville, ici.
Alors, il continuait à faire des allers-retours avec les pages du programme HIN quand Rank vit passer furtivement un dessin qui l'intrigua. Je peux voir ça?
Ah, vous connaissez cette compagnie? La compagnie a fait un truc dingue. Personne n'a vu le travail, pas même le directeur. Mais des rumeurs commencent à circuler. Tout le monde dit que ça va être une claque. Spectacle immersif garanti. Ah, j'adore le concept. Je suis sûr que c'est le spectacle qui va faire le buzz cette année. Il est impératif de réserver, hein, c'est déjà quasi complet.
Encore grisé par cette proposition hors des sentiers battus, Benjamin consulta l'écran de son ordinateur en faisant tourner vivement la molette de sa souris.
Vous avez de la chance. Il reste une place pour la représentation de demain. Je vous l'ai dite direct. Hein. Vous verrez, vous me remercierez.
Merci pour le tuyau, mais...
Et je vous remets également la Bible du bon festivalier, le catalogue des compagnies. Chaque année, il est de plus en plus volumineux. 700 compagnies référencées cette année. Alors voici le programme du HOF. C'est ce qu'on appelle les compagnies de passage. Elles viennent à Aurillac à leurs frais. Vous verrez, on les reconnaît facilement et elles font tout le chapeau en fin de spectacle. Les représentations sont gratuites. On n'est pas en Avignon ici.
Rank se saisit de l'excellente humeur de son interlocuteur pour poser enfin la question qui l'avait conduite ici. Vous connaissez la compagnie Albémut ? Parce que ce matin, j'ai trouvé un badge par terre et je désirerais le rendre à son propriétaire.
Non. Non, ça ne me dit rien. Je crois pas avoir vu ce nom. Il est envisageable que ce soit une compagnie qui ne soit pas inscrite sur le catalogue, mais j'en doute. Ah, allez voir tout de même Stéphanie Montixi. C'est elle qui prend en charge les compagnies du HOF. Vous la trouverez rue de la Coste. Elle bosse pour le festival depuis des années. Elle connaît tout le gratin de la rue. Elle pourra probablement vous aider.
Les personnes derrière Rank manifestaient des signes d'impatience. Parfois, pour le bien du service, il fallait savoir gérer la quantité au détriment de la qualité. Désengorger la file d'attente devenait urgent. Benjamin délaissa son rôle de pédagogue, termina les enregistrements et édita le billet pour la représentation du lendemain. Il rassembla les documents, lui tendit le badge et ajouta à la hâte.
Voici votre passe. Il vous servira à avoir des places. Vous pourrez également accéder à tous les espaces pro, y compris le bar à champ.
Le bar à champ, bon.
Le bar des pros, si vous préférez. Ah, j'allais oublier de vous dire, cette année, nous avons une nouveauté. Tous les matins, à 10h30, 20 rue de la Coste, nous organisons des tables rondes. Demain, David Baker vient à la rencontre du public.
Une fois encore, Rank manifesta son incompréhension.
Ben, vous savez, c'est le metteur en scène du spectacle pour lequel vous avez pris un billet. Et n'oubliez pas, l'inauguration, à 12h30, place de l'Hôtel de Ville. Bon festival! Merci.
Même audio, une mémoire sonore.